Bataille ou pas bataille? Non. Pas bataille. L'amour n'aime pas la violence. L'amour prend patience. Il supporte tout, il endure tout. Ce jour-là, dans la synagogue de Nazareth, pas plus d'ailleurs qu'au moment de la Passion, Jésus n'a pas combattu ses ennemis, ses opposants en tout cas. Jésus n'a pas combattu, il ne s'est pas opposé à eux, alors qu'il en avait les moyens, la puissance de sa divinité. Il en avait tous les moyens et il en avait le droit. À double titre. Il était chez lui, dans son pays, dans sa ville d'origine, et il était surtout chez lui, dans la synagogue, la maison de prière, la maison de son père. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas livré bataille? Parce qu'il est l'amour, le prince de la paix? Certainement. Mais c'est peut-être aussi en raison du résultat qu'il pouvait attendre, de la victoire qu'il pouvait escompter. Nous connaissons tous des situations de conflit, plus ou moins violents. Déjà dans notre pays, la violence est présente. Nous connaissons tous, de façon assez proche, ces situations parfois d'agression, auxquelles nous ne savons pas répondre et qui nécessitent quelques rappels. Quelques rappels sur ce qu'on appelle la légitime défense, ou même encore, dans la tradition de l'Église, la guerre juste. Parce que parmi les conditions de la légitime défense, celle qu'on nommait le plus souvent, c'est la probabilité suffisante de victoire. On n'engage pas une guerre qu'on n'a aucune chance de remporter. Ça ne veut pas dire qu'il faille capituler, rendre les armes, lorsque l'adversaire en apparence est plus fort. Il y a l'histoire de David contre Goliath. Il y a dans l'Ancien Testament nombre de guerres qui semblaient perdues d'avance, mais qui montrent que l'Esprit de Dieu a toujours le dernier mot. Mais Jésus lui-même dans l'Évangile dit, quel est le roi qui partant en guerre contre un autre roi ne commence pas par s'asseoir, par réfléchir, pour voir s'il peut avec 10 000 hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. La première condition de la légitime défense, c'est qu'elle soit une défense, véritablement une défense contre une agression. Que l'initiative vienne de l'autre, de l'agresseur. Et la deuxième condition, moins de la légitime défense, de façon plus juste, de ce qu'on appelle la guerre juste, d'une guerre, c'est que cette agression soit incontestable. C'est ce que dit le catéchisme dans une page justement sur le sujet, qui dit que le dommage infligé par l'agresseur doit être durable, grave et certain. Autrement dit, il ne suffit pas de se sentir agressé, de se croire provoqué, ni même menacé ou encore moins insulté. Aucune insulte ne donne le droit de frapper. Est revenue ces temps-ci dans l'espace public une idée qui était apparue il y a quelques années d'un droit au blasphème, qui est une aberration dans sa formulation, parce que aucun mal ne peut être un droit. C'est la limite même de l'idée de guerre juste. Comment est-ce qu'une horreur pourrait être justifiée? Eh bien, la tradition chrétienne y a répondu d'une certaine façon en fixant comme troisième condition à un emploi légitime de la force le fait que tous les autres moyens auront été envisagés, étudiés, qu'il n'y a pas d'autre solution, que tout se soit révélé impraticable ou inefficace, c'est-à-dire qu'on soit déjà dans l'échec. Aucun mal ne peut être un droit, mais dans le cas très particulier où on est agressé, c'est-à-dire qu'il y a une initiative de l'adversaire, de façon incontestable, deuxième condition, il y a une gravité objective, qu'il n'y a pas d'autre moyen d'y faire face, qu'on a déjà tout essayé, on peut employer la force à la condition, c'est la quatrième condition, que l'emploi, nous disons, soit proportionné. C'est pour ça qu'on ne répond pas par des coups à des insultes. Il ne faut pas que l'emploi de la force ait des conséquences plus néfastes que le mal à éliminer. On ne répond pas par des coups à des insultes, et au moment de la Passion, lorsque Jésus reçoit une gifle de la part d'un garde, Jésus ne tend pas l'autre joue. Il dit, regarde, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi me frappes-tu? Si j'ai mal parlé, explique-moi. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Voilà ces quatre conditions qu'il faut connaître. La réponse à une agression, son caractère grave et certain, l'impasse de tout dialogue, la proportion des moyens mis en œuvre, ces quatre conditions, un emploi que nous disons légitime de la force, auquel il faut ajouter ce cinquième qu'on oublie toujours ou trop souvent, des chances sérieuses de victoire. D'où la question, quelle victoire? Quelle est la victoire qu'on peut escompter? Pour le chrétien, pour nous, elle ne peut sûrement pas être l'anéantissement de l'adversaire. Ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, dit le Seigneur. On lit ça dans le livre d'Ézéchiel, dans un enseignement fondamental sur la responsabilité personnelle. Ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, mais qu'il se convertisse, qu'il change de conduite, qu'il vive. C'est la conversion du pécheur. Et parfois du pécheur, parfois toujours des pécheurs que nous sommes. Quelle est la victoire escomptée et combien de temps avons-nous? Jésus parle en parabole pour laisser à chacun le temps de réfléchir, pour entrer dans le temps personnel de chacun. Il ne nous fixe jamais, jamais d'ultimatum. Et nous, à l'inverse, nous prenons rarement ce temps, surtout lorsque nous sommes plus que contrariés, bouleversés, extrêmement choqués. Au lieu de se dire « je vais y réfléchir », la réaction, comme là dans l'Évangile, est immédiate. Les auditeurs sont furieux et ils veulent jeter Jésus dans le vide. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Combien de fois vous êtes-vous demandé, et nous sommes-nous demandé, ce que nous devions faire face à ce qui nous semblait une agression, une violence? Est-ce que nous devions réagir, combattre, nous défendre, ou passer notre chemin? Il y a quelque temps ici, je devais dire une messe pour un anniversaire de décès, et toute la famille du défunt avait prévu de se réunir à cette occasion, comme c'est fréquent. Malgré des divisions importantes, évidemment, des histoires d'héritage. Et puis, quelques jours avant, la veuve du défunt me transmet une lettre qu'elle avait reçue d'un enfant, d'une petite fille de la branche en conflit, qui lui disait « Je viendrai à la messe, mais pas au déjeuner. » Ce qui était assez étonnant, parce que généralement, c'est l'inverse. J'étais un peu surpris, mais la suite était autrement plus triste. Parce que la suite était rentrée dans une violence inouïe, avec toutes sortes de reproches, la traitant de vieille gâteuse, ou lui disant c'est la sénilité de ta part, d'investation démoniaque, un truc atroce, atroce. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je pouvais décemment dire la messe dans ces conditions? Est-ce que je devais faire valoir un droit de retrait, vous savez, comme dans les transports? Ou estimer au contraire que la prière était d'autant plus indispensable pour cette famille et avec cette famille. Et dire, Seigneur, qu'est-ce que je devais faire? Ça m'était arrivé il y a quelques années, j'avais connu quelque chose de comparable lors des obsèques d'un homme qui était mort jeune dans des circonstances effroyables. Et la relation entre la compagne, ils avaient un enfant, mais la compagne du défunt et les parents de cet homme, c'était tellement envenimé, avait atteint un tel niveau de haine qu'à un moment, j'ai dit « Stop, là, vous pouvez trouver un autre prêtre. » Je dis « Non, je ne célèbre pas dans ces conditions. » Il s'était calmé. L'enterrement avait eu lieu et, c'est il y a quelque temps, aux dernières nouvelles, ils ont trouvé un arrangement et les grands-parents peuvent voir l'enfant. Tout ça, ça est apaisé. Et je l'évoque parce que certains d'entre vous connaissent de telles situations. Qui font d'ailleurs, il y en a, je le sais, qui ne vont plus à certaines messes ou dans certaines églises, et il y a même dans nos entourages des gens qui ne vont plus du tout à l'église, pour ne plus voir des personnes qu'elles ne supportent plus. Dans l'histoire de l'intention de messe, comment est-ce que ça s'est terminé? C'est pas terminé parce que le conflit existe toujours. J'ai fait ce qu'on peut faire de mieux dans ces cas-là. J'ai mécontenté tout le monde. J'ai reporté l'intention de messe. C'est la mission qu'on entend en première lecture. Ne tremble pas devant eux, sinon, dit le Seigneur, sinon c'est moi qui te ferai trembler. Et puis, je suis assez tranquille parce que, en cas de désaccord, pour tout ce que je peux faire, il y a toujours cette possibilité d'avoir recours à l'évêque, au vicaire général, quand ça ne vous plaît pas, dites, ben, vous venez me voir d'abord, et puis ensuite vous dire, il y a un arbitrage. C'est justement ce qui manque dans cette histoire, ce jour-là, dans la synagogue de Nazareth. La présence et l'intervention de l'autorité locale. Le recours à l'autorité instituée, le chef de synagogue, le conseil des anciens. Pas un mot, rien. Et on sait, pire encore, que dans la suite de l'évangile, l'autorité s'est au contraire retournée contre Jésus, puisque ce sont les grands prêtres qui ont obtenu la condamnation et la mort du Christ, alors que la foule était plutôt en sa faveur. Et pourtant, le Christ a institué l'Église. Le Christ a choisi les 12, il a institué l'Église. Il a voulu cette hiérarchie intermédiaire, sans laquelle il ne peut pas y avoir de paix ni d'ordre à l'intérieur d'un groupe, d'une communauté, d'une société. Et il a cependant fondé une autre religion. Une autre religion parce que, passé un certain niveau d'incompréhension, il n'y a pas d'autre solution qu'une bonne distance, une distance respectueuse même, c'est la définition du respect, la bonne distance. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher nos conflits entre nos dissensions, nos divisions même, entre religions ou même entre chrétiens. Nous connaissons tout cela dans notre vie, dans nos conflits entre baptisés, entre catholiques. Quand chacun est persuadé d'être celui qui est, sinon le bon catholique, celui qui est fidèle au Christ, qui est dans la vérité? Celui qui défend la justice ou ce qui lui semble être la justice? Celui qui est dans la charité? Celui qui, comme le Christ, passe son chemin? C'est ici qu'il faut toujours revenir à cette condition essentielle, qui est la probabilité sérieuse de succès, de victoire. La conversion des pécheurs, pas l'anéantissement de l'adversaire, la conversion des cœurs, y compris de notre cœur, voire en commençant par notre cœur. En cas de conflit, posez-vous toujours la question, quelle est la victoire escomptée ?